Puisqu'on reste dans le domaine des neurosciences, je vous propose maintenant de passer dans l'approche de l'imagerie, hein, les voies de l'imagerie cérébrale, la neuroradiologie, avec notamment le projet PSIMAC des Hauts-de-France, en demandant au professeur Jean-Pierre Pruvot de venir nous faire sa présentation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai une complicité maintenant de plusieurs années avec Pierre Thomas et Renaud Jardry. J'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai essayé de mieux comprendre la maladie, de faire en sorte aussi que, même si je suis passionné par la neuroradiologie, ce qui me passionne surtout, c'est les neurosciences et la psychiatrie, pour laquelle j'ai mis une priorité des priorités, parce que tout le monde me dit en neurosciences que c'est prioritaire, mais j'ai vraiment, je peux vous le dire aujourd'hui, des neurologues qui souhaitent mettre une priorité des priorités à la psychiatrie, sans les dissocier de la neurologie. Évidemment, le titre qu'on m'a demandé, c'est la voie de l'imagerie cérébrale et de la neuroradiologie, c'est sûr. Et on a dit avec Pierre et les organisateurs qu'il fallait absolument qu'on essaie d'anticiper et détecter au plus tôt. Est-ce possible? Bon, il y a plusieurs exposés qui ont été faits ce matin qui ont déjà incité à le faire. Et les malades nous attendent, les familles nous attendent, bien sûr. C'est ce qui nous motive. J'ai voulu vraiment associer tous ceux qui y travaillent depuis le début, tous ceux qui ont cru depuis le début, et je peux vous dire que j'ai été vraiment très content de m'associer avec mes amis, je le répète, psychiatres, et notamment Pierre Thomas et Renaud Jardry, parce qu'ils m'ont convaincu, vous connaissez ça par cœur, mais quand on est touché, de près ou de loin, au niveau des amis proches, de la famille proche, alors là, quand on est allé dans les CMP qui ont été expliqués, quand j'ai entendu ce bel exposé là avec ce monsieur anglais qui a voulu s'impliquer complètement parce qu'il était touché, il n'était pas médecin mais il était touché, on a dans notre région la même chose, on a des gens vraiment très investis et qui nous demandent de continuer, de ne pas nous arrêter, c'est ce qui m'a énormément motivé. J'insiste pas là-dessus, on est dans un milieu de psychiatres qui connaissent parfaitement tout cela, et je peux vous dire, je le répète sans arrêt à mes étudiants, on a été convaincus évidemment par les exposés précédents que comment imaginer que dans une occlusion, on ne fasse pas de scanner. Eh bien, c'était ce que j'ai. Quand j'ai 62 ans, quand j'étais externe, on ne faisait pas de scanner. On faisait l'ASP, difficile à avoir. Et puis, on faisait la fameuse PLP. Ceux de ma génération savent, c'était la question d'internat, la ponction lavage péritonéale, dans les traumas, les hémorragies digestives. Et on ne trouvait rien, mais il y avait déjà quand même l'ASP. Et là, le psychiatre n'a rien. Il est tout seul. C'est compliqué. Et pourquoi, même si l'imagerie ne va pas tout résoudre, pourquoi on ne ferait pas une imagerie? Alors, c'est le scanner dans l'occlusion, mais ça doit être l'IRM bien faite pour un problème psychiatrique. IRM bien faite. Vous avez tous ici un jour eu des céphalées. Quand elles sont migraineuses ou céphalées de tension qu'on aura ce soir, on ira sur le Vieux-Port refaire un tour pour se détendre et on apprendra à essayer d'éviter le dafalgan et certainement pas l'IRM. Et c'est fait sans arrêt. Il y a plein d'argent là-dedans. Et quand on fait enfin une imagerie, c'est un scanner sans injection qui ne sert à rien. Quand il y a une céphalée inhabituelle, il faut faire une IRM à la recherche d'une dissection, d'une thrombose veineuse, de choses comme ça. De la même façon, quand on fait une IRM, j'essaie de vous convaincre, il faut bien la faire, certainement pas un scanner sans injection, c'est certainement pas une IRM avec T1, T2, comme je dis à l'interne, tais-toi, quoi. Enfin, c'est des trucs de base. Il faut vraiment faire du gadolinium, il faut faire de l'imagerie fonctionnelle, il faut bosser, quoi. Faut y aller. Et bien sûr, le traitement. Imaginons qu'on n'ait qu'un ou deux ou trois médicaments en cancérologie, alors qu'on a une médecine de précision, une médecine de plus en plus exacte grâce aux biomarqueurs de qualité. J'ai adoré l'exposé là sur la génétique, la biologie et donc l'imagerie. C'est toujours pareil. J'ai dit récemment, j'ai entendu à Rotterdam, je cite, parce que j'aime bien quand c'est d'autres qui ont eu l'idée, c'est un type vraiment passionnant à Rotterdam qui disait, voilà, il y a les big data, mais les big, c'est peut-être biologie, imagerie, génétique. Et nous, on travaille souvent de façon séparée. Moi, le premier, c'est-à-dire qu'on a tellement de retard et de choses à faire en imagerie qu'on ne passe pas assez de temps avec le psychiatre, le biologiste, le généticien. Il faut vraiment qu'on change. C'est pour ça que j'avais introduit avec mes internes récemment, en revenant de Rotterdam il y a 15 jours, le big data, quoi. Avec big data, elles sont là. Toutes les données sont là, donc il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais rien remplacera l'intelligence humaine et émotionnelle. On le voit ce matin, ce qui est intéressant, pourquoi on se réunit, on peut regarder chez nous par e-learning, Internet, on a besoin de se parler, on a besoin des exposés que j'ai entendus depuis ce matin, on a besoin de la discussion, c'est très important. Sinon, on reste chez soi, on est devant des ordinateurs, c'est moche quoi, on a besoin d'un dîner comme hier soir, on a besoin des pauses, on a besoin de se parler, heureusement. Et puis l'attention, j'ai entendu ça dans plusieurs topos, l'attention aux autres. On a dû avoir tous ici, parce qu'on a de la chance, on est des soignants, on a dû avoir cette ocytocine, on a dû avoir ce qu'il fallait. Et ceux qui ne l'ont pas eu, et bien, il faut les aider d'autant plus. Quoi. Donc moi, je pense vraiment que ces biomarqueurs sont là pour essayer de cibler les thérapeutiques, de vous aider à mieux adapter vos traitements, de faire des essais thérapeutiques de qualité et de faire en sorte que l'on puisse avoir un panel de médicaments bien adaptés à chaque type de maladie. Et plus on essaiera d'associer tous ces biomarqueurs, mieux on se portera et surtout mieux les patients seront aidés. Alors, beaucoup de gens me disent « Oui, mais tu sais, avec ton IRM, finalement, on ne trouve jamais rien. Ben » Forcément, si vous faites une IRM sans injection, on perd déjà des chances. Si en plus, on ne fait pas l'IRM fonctionnel, on n'y comprendra rien. Vous savez très bien, on a mis ça avec Renaud Jardry qui bosse beaucoup là-dessus, c'est l'imagerie structurelle et fonctionnelle. Dans l'imagerie structurelle, on voit déjà beaucoup d'atrophie. Encore faut-il des logiciels qui permettent de mesurer l'atrophie et pas avoir un cliché. Et je défends les radiologues, j'essaie de les former le mieux possible. Mais il ne faut pas mettre, voilà, à considérer comme normal, à peu près normal, petite atrophie, etc. Il faut un logiciel, il faut un compte-rendu standardisé, il faut un logiciel adapté qui vous donne vraiment l'atrophie. Et on voit dans ces maladies l'atrophie importante et on comprend mieux les problèmes cognitifs. De la même façon... Ça a été bien exposé déjà par plusieurs d'entre vous ce matin. Le connectome, il fonctionne. On a vu là avec l'ocytocine, toutes les interactions. Tout ce qu'on a appris sur les zones cérébrales est à remettre en question. Vous faites du RM fonctionnel, il n'y a pas un qui a le même endroit pour la zone du langage. Tout est différent. Donc, on doit s'adapter à chacun. Quand on dit une médecine personnalisée, ben, tant mieux. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Moi, je dis toujours à mes internes, on est tous différents, mais ben, ils répondent à ma place maintenant tellement... Très, très unis. Différents, mais très, très unis contre la maladie. On doit vraiment être unis, tous ensemble. J'aime pas la radio. Alors pour un prof de radio, ça y est, si jamais mon président de CNU m'entend, mais il me connaît très bien. J'aime bien les neurosciences. J'aime bien le cardio-thoracique et la radio à sa juste place. J'aime bien tout ce qui est abdominal. J'aime bien. Mais je suis en plus passionné par les neurosciences et la psychiatrie. Il faudrait d'ailleurs plus le rajouter, mais on est obligé de le rajouter. Que quand on dit neurosciences, souvent la psychiatrie est oubliée. Alors que c'est le même cerveau, c'est les mêmes maladies. Je me demande si j'allais le dire ou pas, j'arrive, je me trompe d'endroit, je vais à la téléphonie. Et je vois une dame, c'est le congrès de psychiatrie. Elle me dit non, c'est les téléphones, non, on n'est pas. J'imagine ce qu'elle a dit. Alors je dis écoutez madame, c'est une maladie comme une autre. Ah oui, excusez-moi. Bon. Vous voyez le chemin, hein, ce qu'il faut faire, c'est terrible. Hein. Donc, là, intéressant aussi, on fait des travaux, on essaie de comprendre avec les familles ce qui peut se passer. La vulnérabilité génétique, si la famille, quand vous avez un enfant qui ne va pas bien, toute la famille ne va pas bien. Et si on fait des études de recherche clinique, comme il a été dit, tu l'as expliqué, dans d'autres pays que les nôtres, on expliquera pourquoi, malheureusement, alors qu'on n'est quand même pas mauvais, eh bien, voilà, Stanford, à Boston, au Mont-Sinaï, au Japon, en Corée du Sud, en Scandinavie, en Hollande. Et là ils font... Enfin, c'est ce que tu as montré en couleur, là. Et puis nous, on n'est pas dans la couleur. C'est embêtant. Hein. Et finalement, on voit que dans ces familles qui jouent le jeu, qui participent, on voit des petits signes en IRM qui montrent cette vulnérabilité génétique. Et donc, plutôt que de dire « Ah, vous risquez d'avoir la maladie, parce qu'on a peur de tout », mais non, on n'a peur de rien. On va vous aider, on va anticiper, on va essayer de prévoir et de faire en sorte que l'environnement dans lequel vous serez va permettre de vous aider et de ne pas tomber dans une crise aiguë un jour. Donc ça, c'est quand même extrêmement important aussi à partager. Alors, bien sûr, ça j'en parle beaucoup avec Pierre Thomas, c'est que il y a beaucoup de familles qui disent « Ah oui, mais finalement, ils fument du cannabis. » Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas une maladie psychiatrique. On a vu, et puis à l'école, on a bien vu, et puis ses profs nous ont dit. Et on trouve finalement les symptômes de la maladie. Mais on trouve surtout, regardez l'IRM, déjà l'atrophie. Donc on travaille déjà là-dessus. La cannabis, c'est une... J'ai fait un lapsus avec la vue. C'est vraiment une cochonnerie, quoi. dans tous les organes. Et donc, ce que j'ai fait plutôt que le faire moi-même, des fois, on se dit, bah, tiens, on va aller en pionnier. J'ai demandé à tous mes externes, tous mes internes, d'aller dans le lycée où ils étaient en classe pour montrer les images, la destruction du cannabis, ses angiopathies, l'atrophie, etc. Et ils le font et ça marche de mieux en mieux. J'ai bien aimé aussi ce qui a été fait avec les écoles de journalisme. Je pense que ce sont des bons médias, c'est des gens qui attendent, plutôt que faire du truc à scandale, etc., essayer d'informer calmement les gens et le mieux possible. Alors bien sûr, prédire la réponse au traitement, on en a déjà parlé, c'est clair et net. Avec la biologie, la génétique, l'imagerie, on doit prédire, et c'est l'imagerie qui peut nous aider, évidemment. Je pense beaucoup, en parallèle à la sclérose en plaques, ces femmes jeunes. Les gens disent, alors j'entends dans le milieu, radio. Ouais, il ne faut plus faire de gadolinium, il ne faut plus faire ça. Et puis, on voit celui qui traite au quotidien et qui a ces nouvelles molécules. Un arsenal biogène nous dit qu'il va consacrer 1 milliard 200 millions à ces maladies neurologiques. Et pourquoi pas aux maladies psychiatriques, même s'il y a des labos qui s'en occupent bien quand même. Mais nous, c'est grâce aux biomarqueurs qu'on voit s'il faut rajouter une molécule ou la retirer ou être encore plus agressif. Parce qu'on a fait toutes les séquences qu'il fallait. À quand ces séquences pour la psychiatrie? Il faut y aller et faire de la recherche. Bien sûr, vous êtes convaincus tous, parce que les exposés, moi j'ai tous écouté, j'ai rien à rajouter, c'est que on sait très bien que même si on trouvait 1% d'anomalie, on serait rentable. Pierre l'a bien dit ce matin. On sait d'après les grandes séries qu'il y aurait 5 à 20% d'origine systémique ou neurologique à des premiers épisodes psychiatriques. Et on sait aussi que finalement, dans le modèle médico-économique, à peu près 12% des sujets scannés, bien scannés, pas par le scan, hein, bien explorés par l'IRM de qualité, on trouve à peu près 12%, vous voyez, entre 5 et 25. On travaille beaucoup là-dessus, et surtout, faites un protocole complet. Il y a des gens qui vous disent finalement, vous voyez le radiologue, il vous dit, oui, mais j'ai un petit peu de place pour ça, il n'y a pas de problème, et puis on fait le T1, T2, vite fait, bien fait. Ou le scanner sans injection. Dites non, je préfère ne rien avoir que rien. Et alors qu'on ne se pose pas la question, et tant mieux d'ailleurs, dans un cancer du foie, dans une maladie de Crohn, là c'est de l'IRM faite 40 minutes, hein, et on dit, c'est tout juste si on ne rajoute pas encore des choses, peut-être pas forcément utiles, j'exagère un peu, du moment que ce soit bien fait, vaut mieux une séquence en plus qu'en moins. Et bien voilà, la psychiatrie est toujours comme ça. On finit par vous dire oui et on fait petit brin. Quoi. Et moi, je ne peux pas supporter. Tout en respectant bien tous mes radiologues. Hein. Et les internes réagissent bien, je suis content, je vais vous le dire à la fin. Au niveau radiologique, évidemment, c'est l'acceptabilité. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit par quelqu'un d'entre vous ce matin sur le fait d'essayer d'avoir des lieux d'accueil de qualité pour... le premier épisode, et pas forcément déjà le centre psychiatrique. On trouvait quelque chose. Donc avec Pierre, on essaie de trouver une solution pour mettre une IRM proche de la psychiatrie, mais en dehors de l'hôpital. Tout le monde se croise, ça a été bien dit ce matin. Et je pense que, par respect pour le malade et sa famille, il faudrait essayer d'avoir une IRM dans les grands centres de psychiatrie. Alors, je suis de plus en plus écouté là-dessus, mais... À la fin d'un rendez-vous, vous savez, quand vous dites « Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. » Bon, je me dis « Ben oui, pauvre patient, il va encore attendre. Ben, » Du coup, maintenant, on va le faire. Ce sera ma conclusion. Les bonnes idées, à chaque fois... Alors ça, est-ce que c'est une bonne idée? C'est un peu petit, excusez-moi. Concentrez-vous sur la colonne du milieu. Je laisserai mon topo, bien sûr, pour tout le monde. Et quelle est la dépense remboursable en euros en France sur l'imagerie? Vous connaissez, on est un beau pays, hein, le PIB, vous connaissez le pourcentage pour la santé, vous savez tout ça. Et vous savez que, globalement, il y a X milliards pour telle et telle maladie. Pour l'imagerie, c'est 6 milliards d'euros, dont 3,6 milliards de soins externes. Vous lisez, j'en suis sûr, New England, le Lancet, le Nature, vous voyez bien dans les sommaires, tout d'un coup, paf, je clique et je vois... les top 10 des grandes révolutions médicales. 1, ça a été dit ce matin, les grandes thérapies. 2, la génétique. 3, pas la radio, l'IRM. Regardez, dans tous les pays, on achète plein d'IRM. Je parle du Japon, de la Chine, des grands États américains. Ça, c'est malheureusement inhomogène. La Scandinavie, je reviens, la Corée du Sud. Et nous, on est les derniers de la classe une fois de plus. Et en plus, on bosse énormément sur chaque IRM, c'est 7-21, on épuise tout le monde. Et en plus, on ne fait pas de recherche. On n'est plus du tout, enfin, on fait de la recherche clinique, mais on n'est plus du tout dans les standards des grands labos de recherche. Ils vont ailleurs. Et quand on en fait, ah ben on n'a pas pu inclure le patient parce qu'il y avait une urgence, etc. Donc il n'y a pas de machine dédiée. C'est terrible. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un... J'ai été élevé comme ça par mes parents. On peut critiquer si on construit. Et je construis, mais il n'y a pas beaucoup de briques pour l'instant. Donc tous ensemble, je pense ce matin, on va essayer de construire un modèle. Donc regardez, sur les 3,6 milliards de soins externes, 6 milliards en tout. Hein, donc 2,4 milliards de soins internes, 3,6 milliards de soins externes. Vous avez, sur la première colonne, 1,4 milliard pour la radio standard. Mais le top 3 c'est des 10 grandes révolutions médicales, c'est l'IRM. 1,4 milliard sur le standard. 1,6 milliard sur l'échographie. 680 millions. Oui. À peu près 221 millions sur le scanner et presque 300 millions sur l'IRM. Où allons-nous? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Vous allez en Allemagne, c'est tout l'inverse. Et c'est terrible, quoi. Donc, prenez ces chiffres, prenez Diaporama, dites-le partout et demandez que cet argent, comme j'ai dit à Mme Buzyn récemment, qui est à l'écoute, hein, soit orienté sur l'imagerie, la génétique, la biologie, il n'y a pas que nous. Hein. La psychiatrie, les SMP modernisés, enfin tout. Il faut mettre cet argent. J'ai même dit à Mme Buzyn, si vous nous mettez des scanners des IRM, on ne fait pas les actes inutiles. À peu près 40% des actes sont inutiles. C'est prouvé, c'est publié. Quand est-ce que ça va changer? Je pense, ayant mis ma priorité des priorités sur la psychiatrie, comme la démographie, vous la connaissez bien, 100 000 généralistes, 100 000 spécialistes, 12 000 psychiatres, 11 000 anesthésistes, 8 000 radiologues, 5 000 cardiologues, 3 500 gastroentérologues. Vous êtes 12 000, bravo. Et heureusement pour les malades. Si les 12 000 s'y mettent, on a des IRM. Insurgez-vous. Non, je suis révolté, mais j'ai fait cours aux troisième année de médecine, il y en a 540, ils étaient tous là, et on est en train de faire une lettre à la ministre. C'est pas de la révolution, les gilets jaunes et tout, c'est simplement dire attention, attention, c'est pas pour nous. Je vous assure, je suis en fin de carrière, je veux laisser une place la meilleure possible pour mes élèves, et il faut que ce soit bien et pour que les malades soient là. L'intelligence artificielle, l'autre jour, quelqu'un me dit, tiens, bah, tu es content, on va te remplacer. Bon, je dis, tu sais, si jamais mon métier évolue, tant mieux. Je changerai de métier, j'aurai toujours quelque chose à faire. Moi, j'adore la médecine. J'ai choisi médecine parce que il était jeune. Le médecin généraliste de mes parents me fascinait, quoi. Il était incroyablement gentil avec la famille. On a beaucoup parlé d'empathie ce matin. Et j'adorais ça. Donc, si jamais j'étais plus radiologue, je peux être généraliste demain. J'adore ça. J'ai envie d'ailleurs de faire des missions au moment de la fin de mon département universitaire parce que je ne sais pas ce que c'est que la retraite. Et donc, je peux vous dire que là, j'aurai la possibilité de rester, si je suis un bon médecin radiologue qui parle aux malades, qui partage avec ses correspondants, qui est toujours en train de faire de la recherche, de l'interventionnel, de la psychiatrie, et bien à ce moment-là, je disparaîtrai jamais. Par contre, l'intelligence artificielle, nom d'un chien que j'en ai besoin. Alors là, il n'y a pas de problème. Et regardez ce qu'on fait avec Pierre et Renaud actuellement. Ben, la machine est plus forte que nous dans certains domaines. Servons-nous-en. Il n'y a aucun problème. On va trouver des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, tant mieux. Évidemment, on n'arrête pas, enfin je ne peux pas aller plus vite. Je préfère terminer en vous disant que ça me fascine. Le big data, là, on retient ça. C'est un truc à dire, big data. Partager. J'entends des radiologues dire, ouais, on n'est pas comme des biologistes, mais on est pareil. Ils sont peut-être mieux organisés que nous. Et puis les centres de recherche en biologie, ils sont séparés des centres de recherche en imagerie. Pour moi, c'est des CRBIG. On doit être ensemble. Eh bien, tout est séparé. Tout est en silo, je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, ça, c'est le fameux prédipsie. On prédit grâce aux trois biomarqueurs. Et ça, c'est tous ensemble. Comme j'adore aller à Lens, je suis supporter de Lens parce que mon fils adore ça. Et on est dans la tribune la plus il veut surtout pas aller dans les quartiers. On est vraiment au cœur des Lensois. Vous savez, il y a 40% de chômage, que des problèmes et tout. Et là, on est tous ensemble. Et ça marche. Tous ensemble autour du projet. Ça veut dire que c'est des mariages de radiologues et de psychiatres. On est ensemble, on partage. Et regardez, on a fait ça dans leur Pas-de-Calais. On s'entend bien avec la Picardie, maintenant c'est les Hauts-de-France, donc on travaille ensemble. Les psychiatres nous disent qu'ils sont très contents. Mais par respect, je n'ai pas encore mis la carte parce qu'on n'a pas finalisé. Mais c'est en train de se faire pour qu'il n'y ait plus que tous ensemble dans les Hauts-de-France. L'IRM 7T, alors c'est tellement bien. Je vais dans tous les congrès de neuroradio, il y en a partout, sauf en France. Alors en France, si, on a Neurospin que j'adore, hein. Le Billon, il ne faut pas y toucher, quel grand personnage. On a besoin de Neurospin, on a besoin des centres comme ça. Souvent les gens sont critiques, non, on a besoin, il y aura une 11 Tesla dans ce centre. Il y a eu beaucoup, si vous avez le temps de visiter ça, je l'ai vu, c'est fascinant. Et tant mieux, c'est l'ingéniosité française, le TGV, machin, tout ça, tout va bien. Mais regardez, en cette Tesla, vous voyez ça. Et on nous dit, la machine n'est pas une science exacte. L'épilepsie cryptogénétique. Et moi, maintenant que je fais des 7T, parce que j'envoie du coup mes malins en Hollande, à Utrecht notamment, c'est pas très loin, en bus c'est 16 euros, deux heures de bus. Et bien les patients le font, ils me suivent. Et là, on trouve la petite lésion en 7T que j'avais pas trouvée. Et on dit aux patients, c'est cryptogénétique, vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Oh, on me dit ça, j'ai un petit enfant, j'ai trois petits enfants. S'il y en a un qui a une épilepsie, que je peux pas trouver ce qu'elle a et qu'on me répond cryptogénétique, je deviens fou. Je veux comprendre. Je veux savoir. Et là, regardez. Je vais très vite. Excusez-moi, c'est un peu petit, mais je vais laisser les diapos. L'hippocampe. Magnifique, vous le voyez. Si jamais j'ai un trouble de la mémoire, je veux avoir mon hippocampe. Si je l'ai, je l'aurai facilement, moi. Je veux que tout le monde l'ait facilement. À droite, vous voyez la sclérose en plaques. Les femmes jeunes, diagnostic différentiel. Est-ce que c'est vraiment... Vous voyez, dans la plaque de sclérose... La veine au milieu de la plaque, parce que c'est l'éthiopathogénie, on le voit. Donc on prouve sans biopsie. Je veux avoir une imagerie qui évite les biopsies. Je vais donner par exemple les biopsies de prostate. Vous faites une biopsie multi-étagée, il n'y a plus de prostate. Vous voyez une imagerie de précision, vous ciblez la biopsie. Et voire même, vous ne la faites pas parce que c'est tellement, tellement, tellement élaboré, vous êtes sûr du diagnostic, vous traitez sans biopsie. Je vous assure, hein. De plus en plus. Et pourquoi on ne l'aurait pas? Pareil pour le sein. Hein. Tout le monde fait la mammographie. Et on commence à dire, il y a des cancers induits par la mammographie. Et dans les pays développés, en imagerie, hein, parce qu'on n'est pas malheureux quand même. C'est l'IRM pour la femme, et notamment la femme à risque. Eh oui, sans rayon, sans rien. Et pourquoi on ne le fait pas? Bien sûr, c'est le projet qu'on fait. Tous mes chefs de clinique, ceux de Pierre, sont tatoués. Ils sont passés 2 ans dans le service et donc ils ont le tatouage, je dis. Donc ils sont universitaires, donc ils font de la recherche clinique. Donc ils partagent avec nous. Ils ne vont pas faire la souris Alzheimer en préclinique, mais ils savent faire une sclérose en plaques. Ils savent faire de la neuro-oncologie avec les protocoles de recherche. Ils savent augmenter les cohortes. Et en psychiatrie, ils savent et ils commencent avec nous dans les ateliers à le faire. Ça, c'est vraiment... incroyable. Donc ce projet, on va le faire tous ensemble. Et l'IRM 7T sera aux malades pour toutes les équipes de la région. Et tous vont travailler en 1.5 et en 3T. Et regardez ce qu'on a décidé de faire. Grâce, je le répéterai jamais assez, aux ingénieurs de recherche qu'on a eus avec Pierre en demandant la machine. On a eu avec le conseil régional des ingénieurs. Et après, grâce au protocole de recherche, on a réussi les protocoles thérapeutiques à les pérenniser. Et on a aujourd'hui 6 ingénieurs, dont le champion est Renaud Lopez, reconnu par tous. Les deux Renaud, hein, Renaud Jardry et Renaud Lopez, quel duo. Très simple, très gentil, très bon chercheur, très humain, soignant. Même l'ingénieur de recherche, il a une gentillesse avec les malades. Des fois, on vous a dit, tiens, l'ingénieur, il est en dehors. Mais non, les ingénieurs, souvent des hôpitaux, on les met à côté. Florent Silo, les DSIH, c'est à côté. Et on veut les voir, ah non, 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 on ne peut pas. L'ingénieur, il est chez nous, dans l'IRM. Et là, on se comprend. Et regardez ce qu'il a. Ça, c'est ses mots. Hein, parce que ça aussi, moi, je ne fais pas le singe savant. Je préfère... c'est lui qui fait. Identification de biomarqueurs IRM pour une meilleure compréhension physiopathologique des maladies neurologiques et psychiatriques. Qu'est-ce qu'on va faire? Validation et application des biomarqueurs en IRM 7T sur des grandes cohortes de patients en utilisant le maillage des IRM 3T et 1.5. On a 16 IRM 3T dans la région. 84 1.5. Pour des maladies, on ne voit qu'en 3T. Des fois, on ne voit rien, je vous ai donné l'épilepsie. Et en psychiatrie, on risque de rien voir de certaines maladies. Mais la 7T vous montre les choses. Tout le monde n'a pas la 7T. Mais avec l'intelligence artificielle, le deep learning notamment, on va réveiller les 3T. Et on va montrer des choses qu'on n'a pas vues. Voyez-le. Et ça, moi, je suis très content. En conclusion, j'ai annoncé à Pierre, en venant dans ce congrès, je suis très content, je vois votre attention depuis ce matin, je vois qu'il y a une volonté de faire changer les choses. J'ai dit, voilà, Pierre, tu t'assieds, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors, je demande ce que c'est. Je mets une IRM à Fontan. C'est son bel hôpital de psychiatrie modernisé. On a connu la cave avant. Enfin, je me souviens que c'est horrible. Horrible. Je peux vous dire, j'ai vécu ça. C'est pas possible. Ce bel hôpital, maintenant, il n'a pas d'imagerie. Il aura l'IRM. On va se démener. Et on a déjà appelé dans le train différents députés, différentes personnes de qualité à l'ARS. On va l'avoir, cette IRM. Et une IRM 3T, c'est la moindre des choses pour faire de le fonctionnel de qualité. Maillé avec l'IRM 7T qui va être pour tout le monde. Mais la 3T, elle sera pour la psychiatrie. Et là, je vous annonce quelque chose, parce qu'on n'a pas arrêté de parler pendant tout ce voyage. Heureusement, c'était même trop court. Mais l'île Marseille est passée comme vraiment comme une seconde, quoi, de bonheur. On a décidé de tout faire ensemble. Donc, autour de la console, un psychiatre, un imageur, un infirmier psychiatrique, un manip. Voilà. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.
Moi, j'en veux un comme ça de neuroradiologue hein, dans mon service. Super, c'est génial de voir que l'enthousiasme se communique. Et clairement, le rapprochement avec l'imagerie est tellement important, c'est tout à fait des truismes de le rappeler, notamment dans l'organisation avec l'intelligence artificielle. Hein, c'est vraiment une prochaine vague qui va nous concerner tous dans ce qu'on apporte comme soins. Et quand on dit big data, c'est vraiment bien important de le rappeler, c'est que le big data, ça commence par des petits data. Et si vous mettez de la merde, vous aurez un big data de merde. Donc il faut vraiment rester dans cette idée-là de dire que la qualité du travail que nous faisons à notre échelle, avec nos patients, dans nos systèmes de soins, sont ce qui va faire que le big data va en sortir quelque chose, et notamment que le CTS-là puisse correspondre à quelque chose au niveau phénotypique qui soit suffisamment solide. Donc bien sûr, les progrès de la neuro sont importants, mais ça commence par nous, dans ce que nous faisons et notamment ce que nous évaluons, dans sa grande qualité. Et sur ces belles paroles, je vous propose un petit peu de temps de pause en vous demandant d'être venu à 14 heures précises pour garder l'organisation que nous avons. Merci beaucoup.